France Info.
Rendez-vous dans 4 ans en France pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver. C'était la cérémonie de clôture hier soir des Jeux de Milan-Cortina avec le passage de la flamme aux Alpes 2030. Trois départements, toujours ce matin, en vigilance rouge de Météo France pour les crues. Exemple dans le journal avec des sinistrés en Loire-Atlantique. Une scène peu habituelle hier soir au salon de l'agriculture, une violente bagarre entre des visiteurs et des exposants. Et des routes coupées par des véhicules en feu, des colonnes de fumée, des affrontements avec l'armée. Le Mexique touché par une flambée de violence après la mort d'un parrain de la drogue tué par les militaires. La flamme olympique s'est donc éteinte hier soir à Milan et Cortina, à la fin de ces Jeux d'hiver après 16 jours de compétition et au terme de la cérémonie de clôture dans les arènes antiques de Vérone. Des Jeux records pour les Bleus avec 23 médailles, dont 8 en or. Une belle promesse avant les Jeux à domicile en 2030 dans les Alpes françaises. Et cette cérémonie de clôture, c'est Fanny Lechevestrier qui vous l'a fait vivre hier soir sur France Info.
The Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games close.
Le moment est solennel prononcé par la présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, alors que les athlètes multiplient les photos pour mieux graver l'instant.
C'était magique, c'était bien au-delà de tout ce que je pouvais espérer. Ça restera gravé à jamais dans nos mémoires.
Raconte le porte-drapeau français Mathis Desloges, mais pas le temps de s'apesantir que l'Italie transmet déjà les anneaux aux Alpes 2030 et au son de la Marseillaise. Mathis Desloges et Lou Jean Monod se retrouvent propulsés au centre de l'arène déjà 4 ans plus tard.
Vivre un moment où les portes sont ouvertes devant nous, c'était vraiment intense, c'était fou, grandiose.
Lou et Mathis, la biathlète et le skieur de fond, symbolisent aujourd'hui les promesses d'avenir. Comme 75% des athlètes français, les multimédaillés disputaient leur tout premier jeu. Le ski de fond va d'ailleurs bénéficier de plus d'attention en vue de 2030, promet Yann Kuchera, le patron de la haute performance à l'Agence nationale du sport.
On va mettre de l'argent là où ça peut avoir un impact. On voit bien que le ski de fond, avec ses 3 belles médailles, il y a un potentiel et des promesses qui sont incroyables.
Autant que le déhanché des athlètes au moment de refermer les Jeux de 2026.
Fanny Lechevestrier, l'une des envoyées spéciales de France Info aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina. Aujourd'hui, en fin de journée, la plupart des athlètes tricolores sont attendus du côté d'Albertville pour une grande fête avec le public et pour lancer les Jeux d'hiver 2030 en France avec l'arrivée du drapeau olympique. Dans une dizaine de minutes, après le journal, à 5h10, on fera aussi le bilan sportif de cette quinzaine olympique avec toute l'équipe des envoyés spéciaux de France Info aux Jeux de Milan-Cortina. France Info, il est 5h03, 3 départements sont toujours ce matin en vigilance rouge de Météo France pour les crues, la Charente, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Le pic de la Loire a été atteint à Anceny hier dans l'après-midi. Une centaine d'habitants ont dû quitter leur maison inondée, mais la décrue va prendre du temps. Louis Le Bacquer est allé faire un tour pour France Info dans les communes à l'est d'Anceny. Même s'ils ont souvent les pieds dans l'eau, les riverains gardent le moral.
Impossible pour Lilia d'accéder à sa maison de famille située dans un hameau à Vers-sur-Loire. Alors elle fait voler son drone à une cinquantaine de mètres pour aller voir.
En fait, là, l'eau arrive à peine à 6 mètres. Le courant est raisonnable. Parce qu'en fait, c'est toujours le risque des inondations, c'est que ça transporte des objets qui viennent après percuter ou abîmer. Bon, là, c'est pas du tout le cas.
Du côté de Loire-Auxance, Greg et Hélène doivent sortir de chez eux en cuissarde pour rejoindre la terre ferme. Mais heureusement, l'eau n'a pas envahi leur maison.
Ça arrive tous les 50 ans, donc autant être là, à la limite, ça fait des fois des beaux souvenirs.
Et ça crée aussi du lien entre les voisins.
Ouais. Les gens s'entraident.
On a fait un groupe WhatsApp, on est une soixantaine dessus, et puis bah, ça se file des coups de main tout le temps. Quoi. On se prend des apéros sur les terrasses qui sont pas dans l'eau, et pas d'inquiétude, pas de stress, tranquille.
Ouais. Tranquille, à Montrelet, Marité a le même état d'esprit. Sa cave et sa grange sont inondées. Elle n'a plus de chauffage, alors...
J'ai fait du feu, bah, là, il y a des amis qui m'ont amené du bois parce que mon bois, il est là, le bûcher. Donc là, j'ai mesuré, là, il y a 70 cm.
Mais ce n'est pas dramatique, chuchote la retraitée. Elle trouve même un peu de poésie dans la montée des eaux.
C'est quand même une façon de voir le paysage autrement. L'autre jour, j'étais chez mon voisin, on regardait nos jardins qui étaient mélangés. C'est assez beau, hein, quand même.
Ce qui embête un tout petit peu Marité, c'est le nettoyage qui l'attend une fois les crues terminées.
Louis Le Bacquer, d'ici Loire-Océan pour France Info. Le salon de l'agriculture a été le théâtre hier soir d'une violente bagarre. 15 personnes ont été interpellées. Un policier et un gendarme ont été légèrement blessés. Une rixe qui a opposé des visiteurs du salon à des exposants. Aurélien Tirard.
Oui, tout est parti d'un crachat sur un stand de nougat et cela aboutit à une rixe très violente. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que nous avons pu authentifier, on distingue un groupe de jeunes hommes. Ils échangent des insultes, des coups, avec notamment deux hommes plus âgés. Ils portent des tabliers d'exposants. Tous deux tentent de s'interposer. La scène est assez confuse, mais on peut voir un jeune homme ramasser un couteau sur le stand et le brandir sans porter de coup avec. Quelques secondes plus tard, le groupe se déplace de quelques mètres. Deux hommes reçoivent deux coups violents de bâton en bois. La vidéo se termine sur l'arrivée des forces de l'ordre. Lorsqu'ils interviennent, un policier et un gendarme sont légèrement blessés. Les deux exposants du salon qui ont été pris à partie comptent déposer plainte.
Aurélien Tirard. Avant un remaniement gouvernemental provoqué par la démission des ministres candidats aux municipales, déjà un premier changement. L'actuel ministre délégué chargé de la fonction publique, David Amiel, est nommé au compte public. Il remplace Amélie de Montchalin qui prend aujourd'hui ses nouvelles fonctions à la tête de la Cour des comptes. David Amiel, âgé de 33 ans et député de Paris, est un fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron. La France insoumise, toujours sous le feu des critiques après la mort du militant identitaire Quentin de Ranque. LFI mise en cause pour ses liens avec le mouvement antifasciste La Jeune Garde, dissous en 2025. Mais LFI reste sur sa ligne. Le parti continue de rejeter catégoriquement toute responsabilité dans cette affaire. Jean-Rémy Baudeau.
Ni remords, ni regrets. Tout le week-end, les cadres de la France insoumise ont dispensé le même message. LFI n'y est pour rien, aucune responsabilité politique. Raphaël Arnaud, député LFI, fondateur de la Jeune Garde, dont des attachés parlementaires sont mis en examen dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste, il n'a pas à démissionner, il n'a même pas à quitter le groupe et la Jeune Garde ne doit d'ailleurs pas être dissoute. Ne rien concéder, ne rien lâcher, défendre parfois l'indéfendable, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches est claire. C'est une guerre de position pour consolider sa base et s'ériger comme le dernier rempart face à l'extrême droite. Et qu'importe si les alliances politiques avec les autres groupes de gauche vacillent, si des écologistes et des socialistes demandent des clarifications. À 3 semaines des municipales, cette stratégie pourrait coûter cher à LFI, même si pour l'heure, les membres de la France insoumise serrent les rangs.
Jean-Rémy Baudeau du service politique de France Info. Il est 5h07 après la mort d'un parrain de la drogue tué par l'armée mexicaine. Les États-Unis appellent leurs ressortissants dans le pays à se mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre, y compris dans les zones touristiques. Plusieurs compagnies américaines annulent des vols. Certains avions déjà en vol pour le Mexique ont même dû faire demi-tour. Avertissement aussi de l'ambassade de France à nos ressortissants. La mort de ce baron de la drogue surnommé El Mencho, chef d'un puissant cartel de Jalico, a déclenché une flambée de violence sur fond d'intervention de l'armée, d'affrontements avec les trafiquants et il y a de très nombreuses routes coupées à travers le pays par des véhicules en feu. À Mexico, pour France Info, Gwendolina Duval.
Des affrontements armés ont été signalés, principalement au Jalisco, fief du cartel et au cœur de la crise. À Puerto Vallarta, cité balnéaire au bord du Pacifique, on a vu des colonnes de fumée s'élever dans le ciel toute la journée à cause des incendies de véhicules et de commerces. À Guadalajara, les écoles resteront fermées ce lundi. Les transports publics ont été interrompus. L'aéroport de la ville a été le théâtre de scènes de panique, relayées sur les réseaux sociaux. Pour autant, les autorités signalent qu'il fonctionne normalement. À travers le pays, d'autres incidents ont eu lieu. Les barrages routiers sont innombrables dans les états de Michoacán, Guanajuato, Guerrero, État de Mexico et autres situés dans la zone d'influence du cartel. Les ambassades des États-Unis ou encore de la France ont émis des alertes et recommandent à leurs ressortissants de ne pas bouger, tout comme la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, demande à la population de garder son calme pendant les opérations des forces armées.
Gwendolina Duval à Mexico pour France Info. Et aux États-Unis, un homme armé a été tué par les forces de l'ordre hier dans la résidence de Donald Trump en Floride, à Mar-a-Lago. Il s'était introduit avec un bidon d'essence et armé d'un fusil. Le président américain n'était pas sur place pour la Maison-Blanche. Le Secret Service a agi pour neutraliser un fou. Vous écoutez France Info, il est 5h09. On retrouve Christine Peña pour la première tendance météo de ce lundi. Christine, un début de semaine marqué, on va le sentir un peu partout, par la douceur.
Mais oui, après les pluies, c'est la douceur qui va faire parler d'elle. Ce flux s'oriente au sud. Et de l'air chaud venant du Maroc et d'Algérie va remonter jusqu'en France. La barre des 20 degrés remontera en direction du nord du pays. D'ici le milieu de la semaine, d'ailleurs mercredi sera certainement la journée la plus douce, la plus ensoleillée partout, même au nord. Nous enregistrerons sans doute des records de douceur pour une fin février.
Christine Peña, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant 5h30 pour une carte météo complète.